appel sur l'actualité avec Orange Monnaie, premier service de transfert d'argent et de paiement mobile. Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Claire Pinto.
Bienvenue si vous nous rejoignez, merci d'être avec nous. RFI vous donne la parole jusqu'à 9h temps universel. Nous lançons à présent le débat. Comment les États du Sahel et du Sahara peuvent-ils contrer le terrorisme et empêcher les attaques comme celles qui ont frappé Ouagadougou la semaine dernière et qui ont fait une trentaine de morts? Aujourd'hui, le président tchadien Idriss Déby est attendu à Ouaga. Il sera certainement question de lutte contre le terrorisme. Et puis, le ministre français de la Défense, Jean-Yves Le Drian, a répété hier que la lutte contre le terrorisme dans la bande sahélo-saharienne serait un travail de longue haleine. Alors vous, qu'en pensez-vous? Comment expliquer que 2 mois après l'attaque de Bamako, un scénario similaire se soit répété à Ouagadougou? Quelles mesures le gouvernement burkinabé doit-il prendre maintenant? Comment les autres pays de la région confrontés à ce problème ont-ils réagi? Avec quelle efficacité? Est-ce que les enseignements des attaques du Radisson en novembre ou des attaques de Boko Haram depuis des mois autour du lac Tchad ont été tirés? Faut-il davantage de coopération régionale? La réponse, d'ailleurs, peut-elle être seulement sécuritaire? Voilà, appelez-nous, exprimez-vous, nous attendons vos analyses, vos témoignages. Le numéro, vous le connaissez, 33 9 693 70, 09 693 693 70, si vous nous appelez de France. Et puis, bien sûr, n'oubliez pas Twitter et Facebook. Je vous livre d'ailleurs quelques commentaires reçus sur la page Facebook de l'émission. Curtis qui nous dit: face à cette menace sous-régionale, il faut mettre l'accent sur le renseignement afin de partager les informations. Il faut aussi créer des unités d'élite spécialisées dans la lutte contre le terrorisme, renforcer la sécurité aux frontières et autour des sites touristiques. Mamadou, lui, estime que chaque citoyen doit être son propre gendarme. L'armée seule ne peut pas tout surveiller. Collaborons ensemble pour mettre fin aux objectifs des terroristes, nous dit-il. Nos armées sont faibles, estime Mamadou Mota pour sa part. Au Cameroun, la formation est de 6 mois. Au lieu d'investir dans les renseignements, il faudrait penser à régler ce problème. Vous voyez que tous les avis sont présents sur la page de l'émission. Et puis, Adrien, lui, estime que la sécurité dans nos pays africains commence par la bonne gouvernance, la promotion de l'insertion socio-professionnelle des jeunes, et tout sera résolu, dit-il. Pour ouvrir le débat, au standard, nous attend Luc, qui nous appelle de Ouagadougou. Bonjour Luc.
Oui, bonjour Pierre Pinto.
Comment vous expliquez, vous qui êtes à Ouaga justement, que le Burkina ait été frappé pour la première fois par le terrorisme vendredi et samedi dernier?
Bon, je crois que le Burkina était un peu jusque-là à l'abri, hein. Et comme la situation était tranquille, on n'a pas réellement pris la juste mesure suite aux attentats qui ont eu lieu à l'hôtel Radisson à Bamako. On n'a pas vu immédiatement après des mesures drastiques être mises en place au niveau sécuritaire. Et donc, et en plus de cela, avec tout ce qu'on a connu comme soubresaut sociopolitique depuis la chute de Blaise Compaoré, le système sécuritaire a été un quelque peu perturbé. Je pense qu'un certain nombre de personnalités qui étaient impliquées dans le renseignement et tout cela ont été un peu impliquées aussi dans le coup d'État et tout ça. Et donc tout ça, nous avons connu une période de flottement.
De désorganisation.
C'est arrivé de désorganisation, voilà. Et c'est arrivé au moment où le nouveau gouvernement mis en place n'avait pas encore même procédé aux passations de service pour entrer en fonction. Mais je pense que à présent, normalement, moi j'ai confiance que le Burkina va pouvoir... dans un sursaut patriotique, faire face à cette situation. Et déjà, le gouvernement, lors de son conseil des ministres d'hier, a annoncé un certain nombre de mesures réellement...
Alors justement, que doivent faire les nouvelles autorités? Est-ce que ça va assez loin? Qu'est-ce qu'ils ont annoncé là? Je vous ai coupé la parole alors que vous alliez détailler ce qui s'est dit au conseil des ministres.
Oui, ils ont annoncé des mesures drastiques, donc de contrôle au niveau des différentes frontières, au niveau de l'entrée de chaque ville principale et devant les hôtels, les lieux fréquentés par les Occidentaux. Je pense que, en fait, le président l'avait déjà annoncé même dans son discours d'investiture, on doit prendre en compte la donne terroriste de la sous-région maintenant dans notre quotidien, dans notre vécu quotidien. Et je crois que avec ce qu'on a commencé à voir devant les hôtels et tout cela, en principe, le calme devrait venir. J'ai entendu un certain nombre de citoyens sur les ondes évoquer la peur, Mais pour moi, personnellement, je ne me réveille pas avec la peur au ventre. La vie va reprendre son cours normal, seulement qu'on va... On va intégrer un certain nombre de précautions dans notre comportement de tous les jours et mais normalement ça devrait pouvoir aller.
Vous disiez au début de votre intervention que le Burkina était à l'abri. Est-ce que réellement les Burkinabés se sentaient à l'abri du terrorisme?
Oui, on se sentait un peu à l'abri parce que Blaise Compaoré avec son régime était très impliqué dans les négociations suite aux enlèvements, aux prises d'otages et tout cela. En fait, il y avait un certain niveau de connivence entre le système Compaoré et puis ces gens-là qui faisaient que tacitement, ils s'en prenaient pas au Burkina. Mais je pense que tout ce système a été un peu perturbé, ils ont perdu un peu leurs appuis financiers et tout cela. Et donc maintenant, ils n'ont rien à perdre, c'est pour ça qu'ils attaquent le Burkina aussi.
Est-ce que depuis vendredi ou samedi, Luc, les choses dans la rue, dans votre quotidien, ont changé depuis une semaine? Est-ce que vous voyez plus de sécurité, plus de contrôle? Voilà, des mesures qui auraient été prises avant ce qui a été annoncé hier en Conseil des ministres.
Voilà, donc dès après les attentats, en tout cas devant tous les hôtels maintenant, il y a des contrôles. Hein, là où il y a des lieux, moi je suis là où je suis, il y a une grande réunion d'église à côté, je vois qu'il y a des contrôles. Maintenant les véhicules sont arrêtés, il faut être contrôlé avant d'entrer. Pas ce sont des choses qui ne se faisaient pas avant. Mmh. Et je crois qu'en tout cas, il y a un certain nombre de mesures comme ça qui iraient dans le sens de maîtriser la situation en tout cas au camp. Mais c'est vrai que le risque zéro n'existe nulle part. Hein.
Ouais.
Mais je reste confiant que les choses vont être prises en main.
Restez avec nous, Luc. Je voudrais qu'on accueille Rodrigue Burkinabé également, qui nous appelle de Bobo Dioulasso. Rodrigue, bonjour.
Bonjour, Pierre Pinto.
Vous mettez l'accent sur le renseignement. Ce qui explique en partie ces attaques, c'est la faillite des services de renseignement burkinabé, c'est ça?
Oui, si les djihadistes ont réussi à pénétrer le Burkina Faso jusqu'à frapper le Burkina dans son cœur, je vais parler de l'avenir Kwame Nkrumah, il faut dire que c'est le cœur de la capitale burkinabé, c'est qu'il y a effectivement une faille au niveau du renseignement.
Et alors, comment ça s'explique?
Oui, ceci s'explique par le fait que les forces de défense et de sécurité qu'on accuse souvent à tort et à travers de ne pas réagir, mais si on ne donne pas les moyens pour le renseignement, comment est-ce que ces forces de défense et de sécurité peuvent vraiment lutter, parer à ce genre de situation? C'est pas possible. Alors, vous avez beau équiper les militaires avec des kalachnikovs, avec des armes, je ne sais quoi, vous avez beau les disposer dans toutes les constructions, mais s'il n'y a pas de renseignement, le terrorisme va toujours se vivre, ils vont toujours frapper. Donc moi je dis qu'il faut vraiment accepter ou mettre les moyens à la disposition, en tout cas de ceux-là qui sont chargés de notre sécurité, afin qu'on puisse prévenir les attaques terroristes.
Mais est-ce que ça veut dire, Rodrigue, est-ce que ça veut dire que depuis la chute du régime Compaoré, il n'y a plus de service de renseignement au Burkina?
Oui, c'est sûr que ça a été un peu désarçonné. C'est vrai, je ne regrette nullement le RSC dont on parle, je ne regrette pas Gilbert Diendéré qu'on parle, mais au moins, c'est sûr qu'ils avaient des connivences, comme le disait Luc au début de l'émission, c'est sûr qu'ils avaient des connivences et Diendéré peut-être arrivé à maîtriser le renseignement. Mais c'est vrai que depuis qu'ils sont partis aussi, s'il n'y a pas les moyens, vous avez vu, la sécurité a mis combien de temps pour réagir? Moi, je ne vais pas polémiquer sur ça, mais c'est parce qu'ils ne peuvent pas réagir. Ils ne savent pas qui tire, combien ils sont, ils tirent avec quoi? Comment ils peuvent intervenir? C'est difficile. Donc, il faut armer ces gens-là des moyens pour qu'on puisse prévenir. De toute façon, les attaques, les djihadistes, c'est vrai, ils viennent de zones données. C'est sûr que ce n'est pas des gens qui sont au Burkina ici. Et même si c'est le cas, il faut prévoir, il faut donner les moyens nécessaires pour renseigner les services de sécurité.
Bien, merci Rodrigue, on a bien compris votre point de vue. Badara nous appelle de Bamako. Badara, bonjour.
Oui, bonjour.
Qu'est-ce qui a changé? Même question, qu'est-ce qui a changé depuis les attaques du Radisson à Bamako? C'était fin novembre.
Oui, effectivement, à Bamako, depuis il y a une grande visibilité des forces de défense et de sécurité à Bamako et dans les grandes régions à l'intérieur.
Et alors, c'est dissuasif, c'est rassurant, à quoi ça sert en fait?
C'est dissuasif, c'est rassurant parce que pratiquement dans toutes les rues, devant les grands immeubles, pratiquement, on voit chaque fois donc des agents de sécurité qui sont là en tenue pendant la journée de 8 heures jusqu'au lendemain. Il y a des forces de sécurité qui font des patrouilles donc dans des véhicules déjà identifiés. On voit des forces de sécurité dans des véhicules civils. On voit des forces de sécurité même en moto avec des armes à main qui n'hésitent pas donc à vous arrêter donc en cas de regard suspect et à fouiller pratiquement tout votre véhicule ou à fouiller tout votre moto.
Et ça, ça n'existait pas avant l'attaque de l'hôtel Radisson.
Il y avait des patrouilles ordinaires la nuit dans des lieux criminogènes, mais maintenant c'est pratiquement partout. Le matin, on vous arrête sur le goudron ou bien dans une rue, c'est des agents de sécurité. Ils viennent, ils vérifient vos pièces d'identité, ils fouillent votre véhicule, on essaie de savoir, de vous regarder donc avec un air pour savoir réellement qui vous êtes. Donc il y a tout cela, même dans
les
lieux
publics. Les gens se laissent contrôler de bonne grâce?
Bien sûr, parce que nous, ça nous rassure. Personnellement, je l'apprécie beaucoup.
Merci. Restez avec nous, Badara. Clément nous appelle de N'Djamena. Clément, bonjour.
Oui, bonjour.
Le Tchad est...
Je suis aussi du pays, mais bon, c'est...
Bon.
C'est
d'accord. Pareil. Mais vous êtes toujours au Tchad. Le Tchad qui est confronté depuis un moment aux attaques terroristes de Boko Haram. On se souvient notamment des attaques suicides de l'année dernière à N'Djamena. Qu'est-ce qui a changé dans votre vie de tous les jours, Clément?
Je pense que ce qui a fondamentalement changé, c'est bien sûr la présence policière et militaire confondue dans les croisements, dans les ronds-points pour les vérifications d'usage, les contrôles, comme le disait l'auditeur de Bamako, hein, c'est le contrôle de véhicules, le contrôle d'identité. Mais je rajouterais ce qui a encore beaucoup changé au Tchad, c'est bien entendu, en dehors de présence militaire dans les lieux sensibles, mais il y a des gens qui se sont organisés dans les quartiers de N'Djamena pour la protection des lieux de culte, par exemple. Là, c'est parfois, il y a des forces de l'ordre, c'est vrai, mais les forces de l'ordre ne peuvent pas être partout. Mais moi, quand je vais dans mon église, ce sont les jeunes de l'église qui sont organisés avec les détecteurs de métaux pour fouiller, pour être avec le minimum de petites formations, pour fouiller et savoir qui vient, qui a quoi sur lui pour entrer à l'église. Et
les populations doivent être impliquées. Les populations doivent être impliquées au premier chef.
Moi, je pense que oui, parce que je pense que, comme disait l'un des auditeurs, les forces de sécurité ne peuvent pas être partout. Nous devons, en tant que population, collaborer et faire le minimum que nous pouvons faire pour aider les gens à nous protéger. Et de l'autre côté, je pense aussi, c'est comme mesure, c'est davantage privilégier les renseignements, parce que dans ce genre de choses-là, ce n'est que la prévention qui va aider à la lutte aussi. Tant que les services de renseignement ne sont pas suffisamment équipés et n'ont pas les moyens de leur mission, il sera difficile. C'est évident que Bamako a été touché. Aujourd'hui, c'est Ouaga. Mais à qui le tour prochainement? Mais il ne faut pas se leurrer. Ils ne seront pas simplement en train de viser les hôtels. Ils auront d'autres endroits, forcément. Donc, et c'est là où le renseignement et la prévention est très, très nécessaire pour moi. Le quotidien du monde va changer. Le quotidien de la population change, mais nous le savons pourquoi. Et on est plutôt rassurés de savoir que ces choses-là sont pour notre bien.
Clément, restez avec nous. Amos nous appelle de N'Djamena également. Amos, bonjour.
Oui, bonjour Pierre.
Vous constatez que les mesures décrétées ne sont pas forcément respectées dans la capitale tchadienne. Expliquez-nous.
Oui, j'ai dit que les mesures que le gouvernement est en train de prendre sont de très bonnes mesures, mais le problème c'est que tout le monde ne s'y soumet pas et les forces de l'ordre n'ont pas le moyen de soumettre tout le monde au respect de ces mesures. Par exemple, le port du voile intégral, on le voit toujours en N'Djamena et dans le reste du pays. Les voitures avec les vitres teintées, on le voit toujours en N'Djamena. Les turbans, on le voit toujours en N'Djamena. Donc, on voit qu'il y a un véritable problème d'application de ces mesures et de la loi de façon générale, quoi.
Il y a beaucoup de vent derrière vous, Amos. On passe au standard, au 33 9 693 693 70. Abdoul Karim nous appelle de Niamey. Abdoul Karim, bonjour.
Bonjour Pierre Pinto.
Qu'est-ce qui a changé à vous également? Je vous pose à peu près à tous la même question, mais parce que les problématiques sont similaires dans les pays d'où vous nous appelez. Qu'est-ce qui a changé au Niger ces derniers mois, ces dernières années?
Bon, ce qui a surtout changé, je veux dire, au lendemain des attentats de Ouagadougou, et donc la multiplication en tout cas des patrouilles ici au niveau de la capitale, et la sécurisation donc des grands bâtiments, des lieux de culte, et, mais aussi des différentes institutions, et également en tout cas tous les endroits où les gens sont susceptibles d'être regroupés, tous ces endroits sont aujourd'hui plus ou moins sécurisé. Mmh.
Est-ce qu'il faut une réponse régionale à cette problématique terroriste?
Oui, c'est clair. Il faut qu'il y ait vraiment une synergie des différents États.
Alors, ça existe, ça s'appelle le G5 Sahel, mais est-ce que c'est suffisamment efficace, selon vous?
Bon, je pense pas que le G5 est suffisamment efficace, parce que le G5, jusqu'ici, n'a pas pu poser réellement vraiment les jalons de la problématique sécuritaire au niveau de la sous-région. Et vous savez, c'est juste souvent des belles paroles, des belles idées, mais sur le terrain, rien n'est fait. Et vous savez, aujourd'hui, le terrorisme, c'est une question cruciale. Nous devons tous combattre cela. Mmh. Et en combattant ce terrorisme, nous devons vraiment avoir une même vision, une vision commune. Donc c'est pourquoi il est nécessaire, il est impérieux.
Mais il y a la force française Barkhane, il y a la force multinationale conjointe qui regroupe le Tchad, le Cameroun, le Niger et le Nigeria. Est-ce que tout ça est insuffisant?
Oui, je crois qu'il faut que vraiment les différents États puissent vraiment redoubler d'efforts. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que toutes ces forces ne peuvent pas être présentes en même temps et partout et à tout moment. Donc, voyez-vous, d'abord, il y a une question d'effectifs. Il faut essayer de revoir, en tout cas, les différents effectifs pour, justement, pouvoir régler cette affaire. Mmh.
Merci, Abdoul Karim. Je voudrais qu'on accueille Biran en ligne de Dakar. Bonjour, Biran.
Bonjour.
Je disais tout à l'heure, je posais la question en introduction de cette émission de savoir si les leçons avaient été tirées et pas seulement par les pays directement frappés. Est-ce que vous avez le sentiment qu'au Sénégal, les leçons des attaques terroristes du Burkina, du Mali, du Niger, du Tchad, etc. ont été tirées, les enseignements ont été tirés?
Hélas, malheureusement, je pense que ces enseignements ne sont pas encore tirés. Parce que si j'apprends qu'un terroriste a quitté la Mauritanie pour entrer dans nos frontières, traverser notre frontière de part en part pour aller en Guinée-Bissau.
Alors, Biran, la ligne se dégrade, on vous entend très mal, on va régler ça hors antenne et on va revenir vers vous. Michael nous appelle de Douala. Michael, bonjour.
Bonjour Pierre et bonjour à tous les auditeurs des RFI.
Comment ça se passe au Cameroun? Le Cameroun en première ligne également dans la guerre contre Boko Haram et qui n'est pas épargné non plus par les attaques terroristes. Est-ce que à Douala, grande ville, les choses, la sécurité a été renforcée? Est-ce que c'est visible? Comment ça se passe?
Oui, je voudrais d'entrée dire qu'on constate une sorte de relâchement de ces mesures de sécurité là qui ont été mises en place juste au lendemain des premiers attentats kamikazes au Cameroun qui ont eu lieu à l'extrême nord, ça il faut le rappeler. Mais à Douala et puis dans les grandes villes comme Yaoundé également, on avait constaté une sorte de levée de boucliers où des gens avaient instauré les métaux, les détecteurs de métaux dans les hôtels et également dans des lieux de culte, à l'entrée des lieux de culte et puis dans des marchés, des grandes surfaces et autres, il fallait passer au détecteur de métaux. Mais quelques mois après, je vais dire 6 mois pratiquement après, on constate une sorte de relâchement. Vous allez dans les écoles aujourd'hui, vous entrez facilement, il n'y a plus de détecteur de métaux. Alors les gens se sont peut-être dit à un moment donné que les